Bonsoir, investiture ce jeudi 22 décembre 2016 à l'Assemblée nationale du gouvernement Sani Badibanga, publié lundi 19 décembre dernier. Ce gouvernement est composé de 67 membres, dont 8 femmes. Il comprend 3 vice-premiers ministres, 7 ministres d'État, 34 ministres et 23 vice-ministres. Réagissant à la publication de ce gouvernement, le G7 estime que l'acte posé par le président de la République est notamment une façon de tacler les négociations directes menées sous l'égide de la CENCO. Quelle est l'histoire de la publication du gouvernement Badibanga et quels sont les défis qui attendent cette équipe? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, Kim.
Professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Professeur Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Et Joseph Kongolo, analyste politique. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean-Claude Makenga. Un gouvernement budgétivore de 67 membres pour un budget de près de 5 milliards de dollars, du jamais vu au monde. L'Allemagne, qui a des moyens, n'a que 15 ministres. Le Japon, 20 ministres seulement. Les 5 milliards seront dépensés dans les fonctionnements des ministères. Il n'y aura pas élection, conclut-il. Boni Mitume Kalisia depuis l'Ouganda. Nous saluons cet acte posé par le président de la République et son premier ministre, même si les négociations de la CENCO sont en cours, il fallait quand même qu'il y ait un gouvernement. Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement Sani Badibanga a publié lundi dernier à Kinshasa cette équipe gouvernementale de 67 membres et le gouvernement qui a le plus grand nombre de ministres depuis 2006 puisque plusieurs ministères traditionnels sont subdivisés en deux ou plus. Ce gouvernement a été investi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On va suivre un extrait du discours du Premier ministre Sani Badibanga dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
Nous comprenons bien la tâche qui nous attend en ce moment précis de l'histoire de notre pays et nous ferons tout pour atteindre les objectifs assignés à notre gouvernement, c'est-à-dire consolider la cohésion nationale, organiser les élections et répondre à la crise économique et sociale. Notre responsabilité est multiple. Elle a plusieurs facettes, toutes devant concourir à la paix de nos compatriotes. La première mission est celle de consolider la cohésion nationale qui aujourd'hui est mise en difficulté par les divergences de vues au niveau politique. Plusieurs dispositions de l'accord politique du 18 octobre renvoient à l'organisation des élections, en particulier les articles 4 et 5. À cet égard, nous nous engageons à regarder l'avenir proche, c'est-à-dire la tenue des élections dans le respect des échéances. Pour le relever, nous vous assurons de notre détermination à réunir les fonds nécessaires, d'une part en mobilisant les ressources nationales et d'autre part en recherchant l'appui des partenaires internationaux de la RDC.
C'était la Sani Badibanga, Premier ministre de la RDC. Place à présent à Innocent Olinga qui nous décortique ce gouvernement.
Les statistiques démontrent que les gouvernements Antoine Gizenga 1 comportait 60 membres et Antoine Gizenga 2 en avait 33. Les gouvernements Mozito 1, 53 et Mozito 2, 40. Matata 1 en a eu 35 et Matata 2, 47. Comparativement à ces derniers, les gouvernements Sani Badibanga a un gap de 20 membres, ce qui cause, font remarquer certains observateurs, une véritable incidence sur les trésors publics. Quant au quota féminin, elles sont 8 dans le gouvernement Badibanga, dont 5 ministres et 3 vice-ministres, ce qui ne représente que 13%, quota contraire à l'exigence de la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité promulguée par le président Joseph Kabila, qui d'ailleurs, dans son discours en 2014, souhaitait que la représentativité de la femme dans toutes les institutions soit d'au moins 30%. Concernant l'émiettement des ministères, l'agriculture est séparée des pêches et élevages, les sports amputés de la jeunesse qui se colle à l'initiative à la nouvelle citoyenneté. La décentralisation cède les affaires coutumières, tout comme la justice se sépare des droits humains. Pas d'enseignement technique et professionnel comme ministère, mais plutôt formation professionnelle métiers et artisanat.
Merci Innocent Olenga, professeur Félicien Kabamba. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, vous avez appris comme tout le monde la publication de ce gouvernement, du gouvernement Badibanga. Quelle analyse vous en faites?
Je voudrais d'abord commencer par saluer la mémoire de tous les Congolais qui sont tombés comme martyrs de la démocratie. Mais aussi souligner le fait que ces nombreux Congolais sont morts parce que ils ont senti qu'ils avaient besoin d'un minimum de démocratie. En fait, nous sommes un pays qui a une constitution et la constitution a posé les cadres de la réglementation de la vie politique. Il faut seulement appliquer les textes, et il n'y aura pas autant de tueries. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les institutions n'ont plus de légitimité électorale. Le pouvoir, si vous voulez, le peuple a été désouverainisé et donc a été déresponsabilisé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le peuple voudrait redevenir la source du pouvoir. Et c'est ça le sens à donner aux manifestations qu'il y a eu. Nous pensons qu'avec la publication du gouvernement Badibanga, que les choses vont bouger. Même s'il y a plusieurs problèmes que ce gouvernement pose. Parce qu'en fait, le gouvernement a été sorti à un moment critique, à un moment où les négociations avaient lieu entre l'opposition, la majorité et la société civile. Et il faut dire que la médiation et les autres parties prenantes auraient pu être informées de la sortie de ce gouvernement. Il me semble que cela n'a pas été le cas quand on suit la réaction des uns et des autres. Et donc, cette sortie du gouvernement va avoir un impact terrible sur les déroulements de négociations. C'est vrai que Sami Badibanga a l'avantage d'être un acteur politique qui n'est pas issu de si vous voulez, de rébellion, donc il n'a pas une origine belligène, et de ce point de vue, il est plus ou moins, il a une certaine virginité au point, disons, sur le plan politique, et il peut être beaucoup plus sensible à tous les actes de répression que ceux qui ont eu un passé belligène. Et que cet atout important peut jouer, si vous voulez, dans la diminution, si vous voulez, dans l'élimination de la répression dans l'exercice du pouvoir.
Alors, un gouvernement de 67 membres, certains observateurs estiment que c'est budgétivore, c'est un gouvernement budgétivore, avec un budget de 4 milliards, près de 5 milliards de dollars. Comment il va fonctionner?
Bon, ce qui est vrai, c'est que cela a surpris tout le monde, parce qu'en fait, vous savez que le plus grand argument pour de la non-organisation des élections, cet argument reposait sur le fait que le pays n'a pas suffisamment d'argent pour organiser les élections et que le coût des élections est très élevé. C'est là, vous voulez, l'argument principal qui a été mis sur la table. Alors, paradoxalement, alors que l'on attendait que le coût de fonctionnement du gouvernement baisse, évidemment avec la réduction, si vous voulez, de portefeuille ministériel, c'est plutôt l'inverse. On a là affaire à un gouvernement qui est très éléphantesque et dont le coût de fonctionnement va également être très élevé. Alors peut-être ce qui est attendu du Premier ministre, c'est de fixer les règles pour que ce gouvernement, en dépit de son caractère éléphantesque, eh bien, que son coût de fonctionnement ne pèse pas trop sur le budget de l'État. Cela peut être de mesure en termes de la taille des différents cabinets, mais cela ne pourra pas vouloir combler les gaps quand on sait que le ministre eux-mêmes coûte déjà beaucoup de cher au budget de l'État.
8 femmes seulement sur 67 ministres dans ce gouvernement, professeur. 13% seulement des femmes dans ce gouvernement.
Bon, alors, il faudra comprendre évidemment que la logique de la représentation de la femme peut également s'expliquer au niveau du dialogue. Combien de femmes étaient au dialogue? Parce que quand vous regardez la plupart des personnes, si vous voulez, toute cette bousculade qu'on a vue au niveau de la participation au dialogue, chaque acteur voulait être au dialogue. En fait, cette bousculade s'est justifiée également par le souci que les différents acteurs avaient de, si vous voulez, de s'accaparer de postes ministériels. Et nombreux se sont bousculés aujourd'hui, ils se retrouvent évidemment. Mais combien de femmes il y avait? Et donc, c'est cette, si vous voulez, cette sous-représentation de la femme dans les dialogues qui s'est répercutée au niveau du gouvernement. Bien entendu, le gouvernement, c'est un gouvernement de gens qui ont été au dialogue. Il s'agit là du dialogue, de, si vous voulez, qui a accouché de l'accord du 18 octobre. Eh bien, combien de femmes étaient? Et alors, aujourd'hui, on se retrouve, bien entendu, avec un gouvernement dont la composition reflète, si vous voulez, l'arithmétique, si vous voulez, de la femme au niveau du dialogue.
Merci, professeur Félicien Kababa, professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutemont en RDC. Professeur, vous, quelle est votre lecture de la publication du gouvernement Sami Badibanga?
La première lecture ne consiste pas à essayer de s'imaginer ce que ce gouvernement formellement pourrait faire, mais plutôt cherche le fond. Quelle est la place que ce gouvernement veut occuper par rapport à la médiation globale, quelle est la place éventuellement du renouvellement des postes ministériels si jamais la conférence épiscopale nationale parvient à faire une médiation qui serait plus efficace et qui permettrait d'une part de redonner confiance à la population dans les structures gouvernementales, c'est-à-dire notamment, très concrètement, une médiation qui entérine l'affirmation par la majorité du fait que la Constitution sera respectée, même si elle a dépassé tous les délais, dans le sens où le président Kabila ne serait pas candidat à un troisième mandat. S'il n'y a pas ça, on sait bien que tout va... on risque vraiment la déstabilisation complète du pays, on prend le risque effectivement d'avoir, et on voit bien maintenant le jeu de la majorité, hein, de tensions un peu partout dans les provinces, où on laisse poindre un risque de scission du pays, de façon à faire croire que la majorité en place à l'heure actuelle est la meilleure solution, plutôt que l'anarchie dans le pays. Et donc la tâche du gouvernement sera... d'une part, de permettre à cette médiation d'arriver au bout et d'être vraiment efficace, et donc éventuellement d'inclure de nouveaux membres, soit dans le gouvernement, soit de les ajouter. Je veux dire, avec 67, on a dépassé tous les records, donc on peut encore faire pire. Je veux dire, ça, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est en réalité de parvenir à un accord. Et alors, une fois qu'on aura un accord politique, alors là, il faudra affronter les vrais problèmes du Congo, et notamment, ne l'oublions pas, le problème financier, hein, puisque le Premier ministre a quand même annoncé que 4 semaines après le 5 décembre, c'est-à-dire si on calcule bien le 2 janvier, le Congo n'aurait plus assez d'argent pour faire face à ses importations. Donc là, je veux dire que c'est le problème politique le plus urgent à régler après la médiation. Mais tant qu'il n'y a pas de médiation, tant qu'il n'y a pas de confiance donnée dans les principaux représentants, et là on peut se dire effectivement que M. Badibanga, en acceptant ce poste de Premier ministre, malgré l'avis de la majorité de son groupe politique, il a rompu en fait la confiance que les Congolais pouvaient avoir dans les membres de l'UDPS. Et là, c'est clair que M. Badibanga maintenant s'est mis en porte-à-faux, sauf s'il parvient, avec l'aide de la FENCO, à trouver un accord. Et c'est là que se joue pour le moment l'avenir du Congo, c'est dans la médiation. Et je dirais, voilà, moi je n'ai pas reçu d'informations dans les dernières heures de ce qui est en train d'être négocié autour des évêques. Et donc c'est là, effectivement, que se joue l'avenir du Congo.
Alors, professeur, est-ce que c'était opportun de publier ce gouvernement, sachant qu'il y a des négociations en cours au niveau entre les signataires de l'accord du 18 octobre et les non-signataires sous la médiation de la CENCO?
C'est-à-dire que c'était opportun dans l'optique d'un rapport de force entre la majorité et l'opposition, mais ce n'était pas opportun si on voulait arriver à un accord plus facilement. Ici, clairement, les gens qui sont autour du président Kabila ont voulu montrer qu'ils pouvaient quand même mettre sur pied un nouveau gouvernement à la suite du dialogue qui est devenu un pseudo-dialogue de l'automne. Et là, on voit bien qu'effectivement, la position du gouvernement à l'heure actuelle est une position fausse, je dirais. Donc, effectivement, il faut le plus vite possible réussir à non pas affirmer la position du gouvernement, mais au contraire, justement, essayer de former un vrai gouvernement. Je trouve que la mesure consistant à nommer un nouveau gouvernement était clairement une mesure dilatoire, cherchant à montrer à l'opposition que la majorité avait encore des capacités d'inventer de nouveaux trucs, dirait-on, en prestidigitation. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait convaincant, évidemment.
Merci, professeur.
C'est pas tout convaincant si on entend Jean-Darry.
Merci, professeur. Joseph Kongolo, analyste politique. Votre lecture par rapport à la publication du gouvernement Badibanga.
Yeah, merci. Je voudrais saluer mes professeurs avec lesquels j'ai la chance d'échanger ce soir. Madame, je voudrais vite dire que c'est un gouvernement qui est d'abord le résultat de la maladie qui ronge la République. À tout moment, quand il y a des crises, nous avons toujours l'habitude de recourir à des mêmes solutions. Deuxièmement, nous avons démontré combien nous sommes fidèles à notre manière de créer nos propres crises par l'émergence des fractures au sein de l'élite. Et cela est clair aujourd'hui au sein de l'élite. Il y a des divergences qui font aujourd'hui, dont une des conséquences, c'est ce gouvernement aujourd'hui. Troisièmement, je suis en train de m'interroger sur la capacité de ce gouvernement de guérir la maladie qui ronge la République, effectivement. Comment arriver à assurer la cohésion, qui est l'activité qui est d'ailleurs l'objectif principal, comme j'ai suivi le Premier ministre. Comment arriver à créer une rupture par la confiance, parce que c'est l'élément capital aujourd'hui dans ce gouvernement, c'est la confiance à la fois de la communauté nationale, la confiance des acteurs politiques dans leur ensemble, la confiance de la communauté internationale, la confiance dans les animateurs, la confiance. Est-ce que le Premier ministre et son gouvernement aujourd'hui sont-ils capables de recréer cette confiance, c'est-à-dire de rompre avec, tout ce que nous avons vécu tout ces derniers temps, avec des tueries, des arrestations, violations des droits de l'homme, avec la gabegie financière, la corruption? Est-ce que c'est un gouvernement de rupture? Est-ce qu'il peut restaurer la confiance qui est l'élément fondamental dans le fonctionnement de tout gouvernement? Donc, alors, ce sont des grandes questions que nous nous posons. Ensuite, le contexte dans lequel ce gouvernement a pris naissance, je vous dis d'abord qu'il est le résultat, comme je vous disais tout à l'heure, d'une maladie de la République. La fracture au sein de l'élite, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de cohésion. Et le contexte de crise, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes, et ce gouvernement lui-même, comme on l'a dit par d'autres, un gouvernement mastodonte, 67 membres, 67 cabinets, je crains avec un budget aussi mince soit-il, comment ce gouvernement peut arriver à atteindre ses objectifs, qui sont si simples, que le président de la République a dû donner et qu'il a essayé, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, dans ce discours de tout à l'heure au Parlement. Moi, je crois, franchement, qu'il est dans une situation très délicate. C'est un gouvernement sur lequel, vraiment, nous n'avons pas beaucoup d'assurance de sa capacité à pouvoir relever les défis qui se présentent à lui. Et pour ce faire, je pense que avec les négociations qui sont au niveau de la CENCO, ça peut être un plus pour pouvoir vraiment arriver à mettre la population, la confiance au sein de la population et recréer cette cohésion autour d'une équipe, n'est-ce pas, qui serait acceptée par tous. Et c'est déjà 30% des réussites, n'est-ce pas, de la mission du gouvernement. c'est la cohésion et la cohésion et la confiance, n'est-ce pas, de la base. Alors, si ce gouvernement n'a pas la confiance, n'est-ce pas, de la communauté nationale ni de la communauté internationale, je vois très mal comment les partenaires vont lui donner des moyens pour pouvoir organiser les élections. Donc, je crois que...
Donc, c'était nécessaire d'avoir ce gouvernement?
Je dis que nécessaire, oui et non à la fois. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est bien arrivé? Est-ce que la notion d'opportunité est vraiment bien exploitée en politique aujourd'hui? On se pose des questions. Ne faudrait-il pas attendre? Peut-être que la majorité voit, comme j'ai entendu son Excellence Monsieur le Ministre Mende Omalanga dire que il ne voyait pas d'issue, n'est-ce pas, un consensus sortir, n'est-ce pas, de ces dialogues. Peut-être ils ont poussé le président vite, n'est-ce pas, à sortir ce gouvernement. Donc, je crois que ce gouvernement, en fait, dans le rapport de force actuel entre les deux blocs en présence, ne doit pas, en fait, peser assez lourdement. C'est-à-dire que c'est une pression supplémentaire, n'est-ce pas, de la majorité sur l'opposition pour faire suffisamment de concessions. Mais en même temps aussi, du côté de l'opposition, la déclaration d'Étienne, n'est-ce pas, de retirer la confiance, n'est-ce pas, au président de la République n'a plus de légitimité, c'est une repli de politique normale de la part de l'opposition pour aussi faire remonter les enchères de manière à ce que, n'est-ce pas, à la table des négociations, qu'on puisse s'équilibrer, n'est-ce pas, pour pouvoir faire les concessions qu'il faut, qui vaillent, quoi. Donc, je crois franchement que nous sommes dans un duel entre les deux blocs et que le gouvernement fait partie de la stratégie d'un bloc. La sortie de ce gouvernement fait partie de la stratégie d'un bloc et nous lui donnons pas, c'est vrai, beaucoup de chance, mais qu'est-ce que vous voulez, ce sont des hommes. Est-ce que s'il a la capacité d'exercer un leadership capable, n'est-ce pas, d'orienter l'ensemble des énergies de ses ministres dans une même direction, alors en ce moment-là, on peut lui donner un peu plus de chance.
Merci Joseph Kungolo, professeur Félicien Kabamba. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Maître Zozo Sakali, indigné à partir du Sud-Kivu à Bukavu. Pour plus de raisons, ce gouvernement devrait être déclaré inopportun et illégal. D'abord, en ce qui concerne les quotas féminins, 8 sur 67, total de 13%, est donc contraire non seulement à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi à l'article 14 de notre Constitution. Autre raison, M. Badibanga reste un citoyen belge. Notre constitution interdit formellement la détention d'une autre nationalité qui est la congolaise, sous peine de perdre celle-ci. Or, la renonciation devant une autorité congolaise n'a aucune valeur légale. En plus, cela fait plus de 5 gouvernements dans 10 ans sous ce régime, mais rien n'a changé sur le vécu quotidien des Congolais.
Comment vous répondez à cette préoccupation de cet auditeur hein?
Oui, il dit que le gouvernement est inopportun. C'est vrai, il insiste également sur la représentation des femmes et autres. Bon, sur l'opportunité, je crois qu'il faut reconnaître une chose. La plus grosse erreur commise a été de nommer Badibanga de manière un peu précipitée. Parce que juste après sa nomination, il fallait donc investir le gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nomme Sami Badibanga, et après, eh bien, le gouvernement est démissionnaire, et il y a eu une paralysie totale dans tous les ministères. Allez, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de dossiers qui ne pouvaient pas être décantés parce que les ministres démissionnaires étaient incompétents. Donc, de ce point de vue, on peut dire que la notion d'opportunité ou d'inopportunité doivent être nuancées. Parce que véritablement, dans les ministères, il y a le problème de fonctionnement.
Donc c'était important d'avoir un gouvernement.
Il y a là une véritable difficulté de fonctionnement du pays à partir du moment où on démet un gouvernement, on nomme un nouveau Premier ministre et on laisse passer suffisamment de temps alors que le pays devait fonctionner. De ce point de vue, il y a un vrai problème. Si vous fréquentez les ministères, on vous dira, eh bien, ici, on ne sait pas agir parce que l'homme qui est là est incompétent, il faut attendre le nouveau ministre. Donc, sur la question d'opportunité, il y a beaucoup de choses à dire. Mais, pourquoi avoir nommé un Premier ministre et pourquoi avoir mis autant de temps? Peut-être que ce sont ces tâtonnements-là qui constituent véritablement le réel problème.
Il fallait consulter à gauche, à droite, mettre tout le monde d'accord,
voilà. Alors,
qui sera dans ce gouvernement.
Il fallait absolument attendre que le deuxième cycle des négociations commence. Il fallait, à mon avis, laisser le gouvernement Matata, donc en chantier, en place. plutôt que de procéder par tâtonnement, parce que finalement, on se demande si les choses marchaient autrement dans le dialogue avec l'autre partie. Eh bien, si un autre Premier ministre sortait, qu'est-ce qui arrivera? Est-ce qu'on aura là à voir un gouvernement qui n'a eu que l'espace d'un matin? Il y a là plusieurs questions à se poser. Mais je crois qu'au-delà, il y a aussi une stratégie comme venait de le dire Joseph, une stratégie de la majorité qui consiste à dire, eh bien, ça peut ne pas marcher au niveau des arrangements politiques, donc au niveau des accords politiques du dialogue, mais nous avions déjà un accord, on l'appliquera et on continuera. Et donc c'est une manière de mettre la pression sur la partie avec laquelle on négocie. Donc, ils sont là, ils se disent, ça peut ne pas marcher, mais on a déjà un accord et on a un gouvernement, eh bien le train va continuer. Il s'agit là, de mon point de vue, d'une stratégie de négociation qu'ils ont prise. Mais qu'est-ce que cette stratégie va nous donner comme résultat?
Est-ce qu'on va pas crier à la non-inclusivité ça ne marchait pas du côté de la SEMCO? Est-ce que consentait au gouvernement mis en place ou investi aujourd'hui?
Bon, mais déjà, il faut reconnaître que par les déclarations qui avaient été faites précédemment, vous aviez comme l'impression que la majorité se satisfait de l'accord du 18 octobre. Et que donc, considérer un peu d'inopportune les négociations qui sont engagées avec la SECO. Alors, les premières déclarations ont un tout petit peu donné une idée sur ce que la majorité, évidemment, avait comme stratégie. Apparemment, la majorité semble se satisfaire de l'accord du 18 octobre. Et qu'elle s'est engagée dans les nouvelles négociations malgré elle. Mais le problème ici, c'est les conséquences, parce que dès lors que le gouvernement est sorti, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de réactions et les gens se sont rués sur la rue. Et donc, il me semble bien que les négociations pourront être davantage, si vous voulez, l'avenir pourra être davantage incertain s'il n'y a pas un accord global et inclusif.
Professeur Virgence, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Didier Serge Moussanga, je vous appelle de Kinshasa. Il est finalement vrai que des fois, en cas d'impasse, de conflits ou de malentendus, l'échange d'arguments sert plus souvent à entretenir et à aggraver la rivalité qu'à y mettre un terme. Sinon, rien à ce jour ne peut justifier la mise en place du gouvernement d'Adibanga. Si tous on sait qu'une négociation directe entre la majorité et l'opposition sont en cours sous les bons offices de la CENCO. Aussi, tous savons que l'accord du 18 octobre subira des modifications. Alors, pourquoi s'en tenir vite qu'à la formation du gouvernement post-19 décembre? La paix, credo de nos tous, ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi et surtout en actes.
Professeur Lechance, vous êtes en ligne? Allô, professeur, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on a perdu le professeur Pierre Virgence. Joseph Kongolo, vous allez répondre à la préoccupation de cet auditeur.
Malheureusement,
lui qui estime que rien ne justifie la mise en place du gouvernement Badibanga.
Je crois qu'on a répondu, le professeur est venu tout à l'heure, nous disons que le gouvernement Badibanga est sorti, c'était une stratégie, n'est-ce pas? Ça fait partie de la stratégie de négociation, n'est-ce pas, de la majorité, pour pouvoir pousser l'opposition à pouvoir faire des concessions, lâcher encore du lest, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver, disons, un accord qui les arrange, qui arrange la majorité, si vous voulez. Je crois que c'est l'un des éléments principaux, n'est-ce pas? En deuxième temps, il y a ce qu'on appelle, ce que les gens crient dans la rue, qui est la continuité de l'État. Non, c'est-à-dire qu'un gouvernement intérimaire, nous avons vu la Belgique faire 9 mois avec un gouvernement intérimaire, n'est-ce pas, sans gouvernement officiel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vide, n'est-ce pas, qui pouvait justifier la précipitation. Tout simplement, l'élément plausible, n'est-ce pas, de cette sortie du gouvernement au moment où il y a des négociations, n'est-ce pas, au niveau de la CENCO, c'est tout simplement une stratégie. Ça fait partie de la stratégie, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle face, n'est-ce pas, au rassemblement. Je crois que c'est pour moi, c'est la justification qui est un peu plus plausible dans ce cas.
Alors, il y a Junior Kachala qui écrit depuis l'Afrique du Sud. Il dit ceci. Les défis, là, il parle déjà des défis hein, qui attendent les gouvernements Badibanga. Il estime que ces défis sont énormes car le budget et la taille du gouvernement posent déjà problème, sachant que le budget 2016 était de 9 milliards avec peu de réalisations, surtout dans le social, tandis que le budget de 2017 est de 4,5 milliards avec 67 personnes. Je pose la question à M. Joseph Kongolo, sachant que le gouvernement Matata a été de 47 personnes avec un budget de 9 milliards. Nous n'avons pas pu organiser les élections et s'attaquer au social. Pensez-vous qu'avec ce budget de 4,5 milliards, le gouvernement Badibanga sera en mesure d'organiser les élections et s'attaquer au social?
Bien, madame, merci beaucoup.
Nous sommes déjà dans les défis qui attendent ce gouvernement.
Exactement. J'ai dit merci à notre ami d'Afrique du Sud. Je crois qu'il a posé un problème de fond. J'ai dit d'abord que pour organiser les élections, c'est d'abord un problème de volonté politique. C'est le premier élément. Vous avez vu qu'on avait 9 milliards et qu'on n'a pas organisé les élections. Aujourd'hui, on a 4 milliards, on est engagé pour organiser les élections. C'est-à-dire, il y a d'abord l'élément principal, c'est un problème de volonté politique. Eh ben, le gouvernement Matata n'avait pas, ne voulait pas organiser les élections. Nous avons vu comment ils ont joué le jeu, tout simplement, pour créer une force majeure. Voyez-vous ? Donc, c'est d'abord un problème de volonté. Deuxièmement, quelle est la capacité du Premier ministre aujourd'hui, je l'ai dit, à créer la confiance au niveau de la communauté nationale et au niveau de la communauté internationale pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de cette communauté internationale du moyen qu'il faut pour organiser les élections. Parce qu'il ne faut pas compter sur le budget que nous avons. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, le social, c'est pour abuser la galerie. En fait, on ne peut pas organiser, on ne peut pas améliorer le social de la population, n'est-ce pas, avec un budget de 4 milliards, même si on ne peut pas organiser les élections avec le même budget, avec un budget de 4 milliards, parce que vous savez qu'ils ont eu 15 ans au pouvoir, ils n'ont jamais amélioré le social, et ce n'est pas en une année où on va améliorer le social de la population. Je crois que ça fait partie de la routine politique, n'est-ce pas, tous les discours politiques, là où on voudrait reprendre tous les secteurs vitaux de la vie, et tous les secteurs vitaux, tout simplement dans les discours, mais en réalité, l'objectif principal, c'est de créer des conditions maximales de cohésion pour permettre aux élections, n'est-ce pas, de se tenir dans les meilleures conditions, tout simplement, c'est ça l'objectif. Le social, la meilleure de choses que M. Badibanga peut faire, c'est de préserver le niveau actuel pour tout simplement ne pas créer des dissensions ou encore des trans au niveau de la société. Mais avec ce budget, je pense bien qu'on ne peut pas améliorer le social dans l'espace d'une année ou d'une année, deux mois.
Alors, dans son discours, parmi les objectifs assignés à son gouvernement, il parle de répondre à la crise économique.
Oui, mais la crise économique que nous avons, que nous sommes en train de vivre, et là d'abord, premièrement, des origines internationales. Deuxièmement, il y a un problème de dysfonctionnement au niveau de l'économie nationale, là où pratiquement nous avons perdu la confiance des investisseurs, et je voudrais en profiter pour vous dire que la vente, tout simplement, de Tenke Mining, qui était une grande entreprise américaine, c'est une grande maison américaine, aux Chinois, dans le monde économique, c'est que la République démocratique du Congo a perdu sa confiance auprès des investisseurs étrangers. Parce qu'en fait, ces investisseurs suivent les grands investisseurs internationaux là où ils sont et on croit qu'il y a un peu de la sécurité. Avec la vente de cette, nous croyons nous avons perdu beaucoup en termes de confiance, mais ce soit dans les milieux économiques internet. Donc nous n'avons pas de sécurité, on ne peut pas sécuriser les capitaux, n'est-ce pas, des grandes entreprises. Donc le pays est à refaire sur le plan sécuritaire. Pas seulement la sécurité civile, mais il y a aussi la sécurité des capitaux, c'est-à-dire sur le plan de droit. En quelque sorte, nous disons que l'État est pratiquement décomposé dans ses fondements, et les conséquences, nous les avons, c'est la vente de cette entreprise qui a englouti plus de 2 milliards de dollars.
La réalisation me signale que le professeur Virgence est en ligne. Professeur, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, oui.
Alors, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Mboula Matondi Pacom, au Nord Kivu, dans la ville de Goma. Le président de la République n'avait pas les choix. Il était dans l'obligation de nommer le gouvernement d'urgence avant minuit, en s'appuyant sur les accords du 18 octobre pour éviter qu'il y ait un vide juridique en attendant les résultats qui sortiront des pourparlers de la CENCO. Sinon, ce gouvernement aura du mal à fonctionner car il n'est pas stable. Il aura difficile à fonctionner et répondre sur les sociales de la population par rapport au budget macabre que le gouvernement sortant a laissé. Il n'est pas légitime.
Professeur Pierre Virgence.
Bien, je pense que là, beaucoup de gens sont d'accord avec le fait que ce gouvernement manque de légitimité et effectivement, il y a du manque de soutien populaire et politique, ça c'est absolument évident. Ce qui est significatif quand même, c'est de voir que le président en réalité avait le choix, donc il aurait pu effectivement... au lieu de forcer la main, tenter de forcer la main de l'opposition, essayer au contraire de forcer l'accord au dialogue, par exemple autour de la conférence épiscopale. Mais c'est vrai que maintenant il a vraiment perdu beaucoup de légitimité. Ce gouvernement, je dirais, dans la mesure où il y a eu à un moment donné, quand même, il y a quelques années, une volonté de beaucoup de Congolais de rentrer dans une logique de civisme fiscal, je dirais que ce gouvernement n'a plus aucune légitimité. Il apparaît juste comme la volonté de prolonger un pouvoir qui n'a pas de soutien populaire. Et là, c'est vrai que maintenant, les Congolais, malgré les grands défauts des élections de 2011 et le défaut des élections de 2006, les Congolais veulent maintenant pouvoir voter pour désigner les gens qui sont au pouvoir. Et là, on voit bien qu'il manque cruellement une légitimité au pouvoir. Le problème, je dirais, devient presque un problème, je reprends le terme de l'intervenant précédent, qui était vraiment intéressant, c'est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité à la fois militaire, policière, etc., mais aussi de sécurité financière et de sécurité des affaires. Comment les Congolais peuvent-ils faire confiance à un gouvernement qui, le président de la République lui-même, est soupçonné de vouloir violer la Constitution qui est à la base, en fait, de la vie ensemble au Congo et qui, ne l'oublions pas, avait été approuvée par référendum, hein. Donc je pense que là, effectivement, il y a un manque de légitimité très très fort de la part de ce gouvernement. Et au-delà des problèmes, effectivement, de ce que pourra faire un gouvernement qui serait légitime au Congo, ce qui serait effectivement très compliqué, il y a maintenant la question de comment imposer, du point de vue du pouvoir, hein, l'existence de ce gouvernement à la population et à tous les rouages administratifs, parce que on peut imaginer que partout dans le pays, dans toutes les provinces, les gens vont essayer de résister aux injonctions de ce pouvoir, et ce pouvoir n'aura que la force à son service, il n'aura pas de légitimité pour le soutenir.
Alors, professeur, pour revenir à la préoccupation de l'auditeur, qui estime que le président n'avait pas de choix, il fallait nommer ce gouvernement en s'appuyant sur les accords ou l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine, afin d'éviter qu'il y ait un vide juridique en entendant les résultats qui sortiront de la SENCO.
Non, ben, il n'y a pas de vide juridique, hein. Ce dialogue n'avait pas de puissance formelle, hein. Je dirais la seule puissance formelle au sens juridique classique du terme, c'était le vote à l'Assemblée nationale. Le seul endroit pour faire un dialogue national officiellement et formellement et juridiquement, c'est l'Assemblée nationale. Et donc il n'y a pas de raison de croire qu'il y aurait eu un vide juridique si on n'avait pas respecté les dispositions d'un dialogue qui d'ailleurs n'avait pas de valeur obligatoire et n'avait pas de légalité, je dirais. Évidemment, pour trouver un accord politique entre des groupes, des tensions, des mouvements politiques très, très différents, c'est vrai qu'il peut être utile de faire des dialogues en dehors des enceintes formelles parlementaires ou gouvernementales, mais ici, il ne faut pas prendre les mesures qui ont été décidées lors de ce dialogue comme des mesures légalement obligatoires. Légalement, il n'y a d'obligatoire que le respect de la Constitution et le respect de la loi, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale.
Mais merci.
L'Assemblée nationale devait être renouvelée et elle ne l'est pas.
Merci, professeur Virgence. Professeur Félicien Kabamba, quels sont les défis qui attendent ce gouvernement?
Bien, plusieurs défis, certainement. Plusieurs défis, mais qui ne sont pas à la hauteur de moyens dont disposera ce gouvernement. L'un de ces défis, c'est de recréer la cohésion nationale. Nous sommes aujourd'hui dans un pays déchiré. Et quand vous regardez le dialogue, si le dialogue n'aboutit pas, ça veut dire, véritablement, on accentue les déchirements. Et Sami Badibanga a peut-être l'avantage d'être issu dans les laboratoires de l'UDPS, mais a-t-il encore un accès facile dans l'opposition ? Tant il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise d'identité autour de la personne de Sami. Qui est Sami aujourd'hui ? Est-il l'homme de l'opposition ou l'homme du pouvoir ? Sami appartient à quel appareil politique ? Il y a là véritablement une crise d'identité autour de la personne de Sami. Va-t-il facilement fréquenter l'opposition et la majorité ? Où va se situer Sami ? On sait que ce qu'on a reproché par le passé à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, c'est que Matata a eu une approche très difficile vis-à-vis de l'opposition. Matata s'est enfermé dans la majorité. Il faut qu'il y ait un Premier ministre ouvert à l'opposition, qui approche l'opposition, qui va vers l'opposition, et qui est en mesure de recréer cette cohésion nationale. Sami sera-t-il à mesure d'être à la hauteur de cette tâche ?
Puisqu'il vient de l'opposition, ça pourrait être facile pour lui.
Eh bien, voyons Sami à l'œuvre. Deuxième défi, c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement, ce gouvernement qu'on appelle de transition entre guillemets, est mis en place, c'est qu'il doit absolument refaire, n'est-ce pas, du peuple congolais le véritable souverain primaire. Parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'est plus l'émanation du peuple. Non. Là, si vous voulez, la légitimité électorale a pris fin. Donc aujourd'hui, le gouvernement, si vous voulez, et même le chef de l'État, il est là parce que, évidemment, on recourt, si vous voulez, à l'interprétation de la loi, évidemment, mais aussi à tout ce qu'il y a comme conciliabule qui en découle, avec les dialogues et autres. Mais la légitimité électorale, elle n'est plus là. Et donc, le gouvernement qui est issu de cette nomination n'a plus non plus de légitimité électorale. Il faut qu'on retourne, si vous voulez, on redonne au peuple congolais, si vous voulez, cette légitimité. Et ce droit, ce pouvoir de désigner le roi, le représentant. C'est ça. Et cela s'opère au travers des élections. Donc, il doit absolument organiser les élections. Mais parce que cette période est une période de trouble.
Ça sera aussi votre conclusion.
À partir du moment où le peuple se sent désouverainisé, déresponsabilisé, il va réclamer. C'est ce qui s'est passé dernièrement. Il faut que cette période soit la plus courte possible pour que le peuple ait le pouvoir qui lui a été, si vous voulez, retranché du fait de n'avoir pas organisé d'élection. Il faut que le pouvoir soit un pouvoir issu du peuple. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Et pour le redonner au peuple, il faut organiser les élections. Il faut les organiser dans un délai le plus bref possible pour qu'on ne soit pas une démocratie au fondement renversé.
Merci, professeur Félicien Kebamba, Joseph Kongolo. Ça sera aussi votre conclusion. Sami Badibanga promet de tenir les élections dans le respect des échéances. Vous pensez que ce gouvernement va nous conduire aux élections ?
C'est un défi majeur. Moi, je crois que l'objectif principal de ce gouvernement, c'est d'abord, principalement, la tenue des élections, pas n'importe quelle élection, apaisée. Des élections qui mettent tout le monde ensemble. Donc, c'est un défi majeur. Et en plus de ça, nous n'avons pas le calendrier de ces élections. Nous n'avons pas la date des élections. Vous voyez ? Est-ce qu'il va respecter ces accords ? Est-ce que, d'ici le mois d'avril, s'il faut suivre les accords, n'est-ce pas, de la cité de l'EUA, d'ici le mois d'avril, on va faire la passation civilisée de pouvoir. Donc, ce sont des grands points d'interrogation. Mais je crois que pour y arriver, je crois qu'il y a des défis majeurs, c'est d'abord de créer, comme on l'a dit, la sécurité, la légitimité. Et la légitimité se crée en politique. La légitimité peut se construire en créant tout simplement une gouvernance consociative, essayer de faire participer, fédérer suffisamment la population, les microcoms sociaux, n'est-ce pas, son action gouvernementale. On peut créer une certaine légitimité qui peut lui permettre, n'est-ce pas, d'aller de l'avant et de globaliser.
Merci Joseph Kongolo, professeur Pierre Virgence. Un mot en guise de conclusion.
Bien, je rejoindrai en fait la première intervention de cette émission en faisant hommage effectivement aux martyrs de la démocratie sont morts dans les jours qui viennent de passer, et en rappelant effectivement que les échéances électorales, elles sont passées également, et donc ce gouvernement commence en courant après le temps, et en fait le temps est déjà passé.
Merci, professeur, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.